Divergence FM, l'interview.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui un pianiste que vous avez déjà pu entendre sur cette antenne, Vittorio Forte. Bonjour Vittorio.
Bonjour.
Alors, nous recevons Vittorio Forte parce que prochainement, très prochainement, le 9, il y aura un concert consacré à Carl Philipp Emanuel Bach, auquel vous avez consacré récemment un album paru chez Odradek. Alors, peut-être rappeler à nos auditeurs qui n'auraient pas bien écouté les émissions précédentes auxquelles vous avez participé. Qui êtes-vous? Pianiste?
Oui, je suis Vittorio Forte, effectivement, voilà. Pianiste. Je suis italien, mais je vis en France depuis presque 20 ans. Et à Montpellier, tout près de Montpellier, depuis presque 3 ans. Avant, j'étais sur les rives du lac Léman.
Je comprends pourquoi vous avez si souvent des concerts du côté de la Suisse. Par là-bas.
Effectivement, j'ai beaucoup joué en Suisse et je continue à beaucoup jouer. D'ailleurs, en juin, je fais encore une tournée avec deux chanteuses. Mais depuis 2-3 ans quand même, je suis ici à Montpellier. Je donne aussi des concerts ici. Et jeudi, le 9 donc mai, à 19h30, à la Maison des Chœurs, ici à Montpellier, un concert consacré à Carl Philipp Emanuel Bach, qui est le sujet de mon tout dernier disque chez Odradek, notamment de ses pièces pour clavier, pas les sonates qui sont les plus célèbres de ses pièces pour clavier, mais plutôt les fantaisies, les rondos et puis un cahier de variation.
Alors, pour nos auditeurs, on va peut-être préciser, Carl Philipp Emanuel Bach, bon Bach, c'est pas Jean-Sébastien déjà, c'est un autre Bach, oui, les Bachs ils sont nombreux, ils sont très nombreux dans la famille Bach. Pas tous ont été musiciens, mais beaucoup ont été musiciens. Alors, Carl Philipp Emanuel, quelques repères pour nos éditeurs. Il est né en 1714 à Weimar, et puis il est mort à Hambourg. Il a fini sa carrière en 1788, donc à la veille de la Révolution française, presque 75 ans. Ce qui est une belle longévité pour l'époque.
C'est extraordinaire pour l'époque. Je pense que la mortalité à l'époque, c'était peut-être entre 30 et 40 ans, finalement.
Voilà. Il a vécu aussi longtemps qu'un Haydn, qui est à peu près contemporain. Oui. Voilà. Alors, fils de Bach, deuxième fils de Bach, d'un premier mariage. Oui. Il a un parrain très prestigieux, qui est Georg Philipp Telemann, grand compositeur de cette époque-là aussi. Alors, il sera musicien qui aura important, puisqu'il sera musicien à la cour de Frédéric le Grand à Berlin pendant près de 30 ans.
Oui, avec lui, ça ne s'est pas très, très bien passé, mais effectivement, il a été avec lui.
Longue carrière.
Il était musicien, d'ailleurs.
Va survenir la guerre de 7 ans, pendant laquelle, d'ailleurs, papa Bach va décéder. Et puis, il va prendre la succession de son parrain Telemann
à Hambourg,
comme cantor et maître directeur de la musique. Alors, ça le change beaucoup, parce que ce n'est plus une cour, c'est une ville très commerçante, absolument. Hambourg. On a parlé de la Ligue hanséatique et toutes ces choses-là. Voilà, c'est au cœur du commerce. C'est plus une ville bourgeoise et commerçante qu'une ville de cour. Il va avoir un travail dingue, j'ai envie de dire.
Oui, oui.
Il va travailler, produire. Ça va être les 20 dernières années de sa vie. Mais alors, quelle productivité. Musique pour clavier, beaucoup de musique pour clavier. Alors, on dit clavier, plus précisément peut-être clavicorde que piano, mais on va y venir, vous allez nous préciser ça.
Finalement, c'est un des rares compositeurs, je pense, qui a vraiment, véritablement connu les trois instruments de cette époque, à ce moment de changement, qui était le XVIIIe siècle, le clavecin, qui était l'instrument fétiche de son père, le clavicorde, que son père appréciait aussi et que Carl Philipp Emanuel Bach adorait, et ensuite l'arrivée du pianoforte, pour lequel d'autres compositeurs comme Haydn, bien sûr Beethoven, Schubert, Clementi aussi, composeront la grande majorité de leurs œuvres. J'aime autant penser quand même que lorsque Carl Philipp Emanuel Bach compose surtout la dernière partie de ses œuvres pour clavier, a déjà en tête toutes les capacités mécaniques, techniques de ce nouvel instrument qui arrive, le pianoforte, parce que finalement, il arrive véritablement à écrire dans sa musique des choses qui vont être empruntées par les nouveaux compositeurs, par les nouveaux arrivants, je dirais, dans le monde de la musique, et qui vont ouvrir les portes de la musique, effectivement, de Schubert et de Beethoven, avec tous ces contrastes, avec la possibilité des nuances, avec les atmosphères, avec les changements d'humeur, etc., qui sont très, très présents dans sa musique.
Voilà. Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas spécialistes, on peut peut-être simplement évoquer la... On parle de trois types d'instruments, hein, qui en, bon, le clavecin, on voit à peu près. Alors le clavecin, bah, c'est en fait c'est un instrument à cordes pincées, on pourrait dire.
C'est un instrument à cordes pincées.
C'est un instrument à cordes pincées, même si c'est pas directement les doigts, il y a tout un mécanisme qui fait que.
C'est des plectres, effectivement.
Des plectres, voilà. Et puis, par contre, bah, tout est à la même nuance.
Oui, on peut dire ça.
Il y a eu des astuces après d'avoir deux claviers, comme ça on peut jouer, doubler les notes ou des choses comme ça.
C'est vrai.
Hein, on a trouvé un certain nombre d'artifices, mais fondamentalement, il n'y a qu'une seule intensité. Quoi. Voilà.
Oui, puis en fait, on jouait beaucoup avec ce qu'on appelle l'agogique en musique lorsqu'on joue au clavecin, c'est-à-dire qu'on se donne des libertés. Des libertés que d'ailleurs, avec l'arrivée du piano plus tard, on a totalement abandonné. On est revenu à quelque chose de très strict, enfin, on est plutôt venu à quelque chose de très strict, et on a oublié cette liberté qui était propre au baroque, qui en fait fait aussi le charme de l'improvisation, le charme d'une interprétation, cette liberté-là.
Oui, c'est toutes ces ornementations que les interprètes baroques ont rajoutées,
absolument.
Ont recréé depuis les années 60 à peu près, 50-60.
Oui, un peu avant même.
Avec des Gustave Leonhardt ou des gens comme ça qui ont ramené tout d'un coup cette interprétation qu'on avait effectivement complètement oubliée.
C'est ça. Hein.
Et puis alors, deuxième instrument, le clavicorde, qui est un instrument qui n'a pas fait. Enfin, il est assez ancien, parce que j'ai vu qu'il est au XIVe siècle qu'on trouve les premiers clavicordes ou quelque chose comme ça.
Finalement, il faut toujours rester sur là où il a été vraiment utilisé. Hein. Donc, on est vraiment sur le XVIIIe siècle,
voilà,
à peu près 30, 40, 50 ans d'utilisation, on peut dire, puisque le pianoforte arrive derrière. Et le clavicorde est aussi un instrument à cordes frappées, en fait. Bien sûr, il n'a pas du tout la puissance du pianoforte. On ne peut pas encore véritablement avoir ce sens de la nuance qu'il va y avoir avec le pianoforte. Disons ce contraste véritable entre le piano et le forte, d'où le nom de l'instrument. En revanche, le clavicorde avait par exemple un atout assez extraordinaire, qui n'existe plus d'ailleurs sur les instruments à clavier, qui était celui du vibrato. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un vibrato sur une corde, indication très présente d'ailleurs dans les œuvres de Carl Philipp Emanuel Bach. On peut plus ou moins imiter cela avec le piano moderne par la longueur de la sonorité, c'est-à-dire en essayant de timbrer plus le son de façon à qu'il dure plus, et la vibration, je dirais, naturelle de la corde va donner ce sentiment de vibrato.
Donc un jeu très fin avec les pédales. Donc,
aussi, priori, voilà, j'imagine. Absolument. Justement, ça répond à la question, est-ce qu'on peut jouer cette musique avec pédales? Bien évidemment, puisqu'on peut recréer des atmosphères de l'époque grâce à la mécanique du piano moderne.
Alors, voilà, donc vous voyez que c'est une musique qui est charnière, on va dire, dans l'histoire de la musique. Hein. Alors, vous avez ce souci en même temps d'être très pédagogique, si je puis dire, c'est-à-dire que le concert, vous en avez le récital, concert, c'est récital, concert et conférence à la fois, puisque vous allez... présenter, commenter un petit peu l'œuvre et nous donner, on a eu un petit échantillon des illustrations, explications, des éclairages que vous allez apporter.
Quelques clés, je ne vais naturellement pas faire une conférence, loin de là, mais commenter un peu, peut-être chacune des pièces, en tout cas les éléments essentiels qu'on retrouve dans les pièces que je jouerai jeudi, pour mettre en avant Carl Philipp Emanuel Bach, qu'on connaisse mieux le personnage et qu'on comprenne surtout son importance au sein du monde de la musique de la fin du XVIIIe siècle, qui, encore une fois, je répète, va être vraiment le tremplin absolu pour des compositeurs qui, véritablement, seront des génies de la suite de cette histoire de la musique, comme Beethoven. Et on retrouve même parfois certaines libertés avec... Presque le caractère de Chopin.
Alors voilà, bien de quoi allécher nos auditeurs, découvrir un compositeur dont on connaît le nom, mais dont on connaît peu la musique, tremplin pour Beethoven et Schumann, et Chopin, et Schumann derrière aussi, bien sûr. Ça se passe, vous vous rappelez le lieu et l'heure.
À la Maison des Chœurs, le jeudi 9 mai à 19h30.
Voilà, et nous vous donnons rendez-vous là-bas, et c'est jeudi. Merci beaucoup, Victorio Forte.
Merci à vous.
Et à une prochaine, et bon concert, puisque vous avez plein de concerts programmés.
merci infiniment.
Et pour nos auditeurs, eh bien, pour vous rendre le jeudi 9, vous trouverez tous les détails sur le site de Divergence FM.